10h21, il se passe quoi que ce soit sur la route ou encore vous avez des choses à nous dire, c'est le 88-971-101, c'est par texto. Merci d'être nos yeux, nos oreilles. Y a-tu un épisode de trafic encore hier soir? Je sais que le ministère des Transports a décidé de repousser l'heure là, d'une heure en raison du fait que mardi, ça a été vraiment le bordel à la hauteur des ponts parce que... on a fermé des voies, puis en plus, on avait fermé le pont de Québec.
Oui, mais d'après moi, hier soir, ça a été correct parce que ce qui est arrivé mardi, c'est que le match du Canadien... En tout cas, c'est ce qu'on pense. Il n'y a rien qui prouve que c'est ça, mais c'est comme le gros bon sens. C'est que le match du Canadien a fini. Il y avait du monde chez les chums, il y avait du monde à Québec dans les bars sportifs, tout ça. Fait que tout le monde est arrivé dans le secteur des ponts en même temps, avec deux voies fermées sur la porte, le pont de Québec fermé. Fait qu'il restait une voie.
Fait que ça... restait une seule voie pour les deux rives.
C'est ce que je comprends. De fermeture de deux voies, pont La Porte, puis c'est ça, pont de Québec. Fait que
Ouais, mais c'est une voie de chaque côté. Là.
Exact, c'est ça.
Ouais, ça arrive régulièrement aussi à l'été. Moi, pour avoir joué longtemps au décoquet à Charny, vers 10h, ils te ferment ça puis ils te mettent ça une voie. Mais quand tu sors du décoquet à minuit du soir parce que tu joues à 10h15, puis tu arrives chez vous à 1h10 parce que t'es pogné dans le fil du trafic.
T'étais où?
C'est ça.
T'étais où?
Ta game était à 10h15. Pourquoi tu rentres à 1h10? Ben, chérie, il y avait du trafic. Prends-moi pas pour une niaiseuse!
Ouais.
Fait que là, c'est ça. Là, c'était à partir de 21h qu'il farmait. Là, ça va être 22h. Fait qu'il repousse un petit peu. Mais là, s'il y a une prolongation, oublie ça. Là.
Okay, puis là, c'est beau sur le réseau?
Il y avait un petit peu d'attente pour la porte nord. Puis c'est encore ça. Là, c'est encore assez beau.
Sur le réseau, soyez attentifs. Boulevard Laurier. Parce que hier midi, il y avait énormément de circulation. Ça devient une voie là, après l'heure de pointe en raison des travaux du tramway.
Les news 102.1. 6h23 en ce 23 avril 2026. Tu nous apprends quoi ce matin?
J'ai quelques faits divers pour vous. D'abord, un détenu qui a été violemment agressé là, du côté de la prison de Québec mardi soir par son compagnon de cellule, Le Soleil, qui raconte que vers 23h, il y a des agents qui sont intervenus après avoir entendu des cris provenant de la cellule en question. À leur arrivée, un détenu était en train de s'acharner sur la tête de la victime qui a subi de multiples fractures au visage, a dû être hospitalisé. L'événement qui ne serait pas relié à la guerre qui fait rage là, dans le monde criminel. Les agents correctionnels estiment plutôt que l'effet de substances intoxicantes aurait provoqué l'agression. Ils disent qu'une large quantité de crystal meth qui aurait été livrée pendant la fin de semaine et serait en circulation dans la prison. Et l'agresseur, semble-t-il, là, était sous l'effet de substances intoxicantes. Plutôt en soirée, une surdose dans une autre cellule qui avait déjà mobilisé le personnel. Donc, la situation qui continue d'être problématique dans nos prisons. Deux personnes auraient été agressées à Lévis, dans le secteur de Charny, dans un événement qui s'apparente au phénomène dont on s'était déjà parlé, là, les fameux chasseurs de pédophiles. Le service de police de la ville de Lévis qui confirme au Journal de Québec que deux incidents distincts sont survenus vendredi et samedi, impliquant un modus operandi un peu similaire. Dans chaque cas, une victime aurait été violemment prise à partie par des individus se livrant à ce type de chasse et les suspects se feraient passer pour des adolescents pour attirer des hommes à un point de rencontre, les confronter, filmer la scène et des fois, ça peut mal virer. Les autorités qui rappellent que ce genre d'intervention-là, ça peut entraîner des accusations criminelles, même sans intention initiale de commettre un crime, soulignent les risques aussi pour la sécurité des personnes impliquées et les impacts possibles sur des enquêtes en cours.
Bon, l'ex-enquêteur au service de police de la Ville de Québec va être avec nous à 7h30. Roger Ferland, on parlera entre autres de ce dossier-là, mais il y en a tellement de pédos, là. C'est juste paniquant de voir à quel point c'est facile pour des ados qui veulent s'improviser chasseurs de pédophiles de trouver des pédophiles dans la grande région de Québec. En quelques secondes, ça mord à l'hameçon, Jeff. Là.
Exactement.
Tu sais, le service de police de la Ville de Québec puis le service de police de la Ville de Lévis fait bien de rappeler que si vous vous lancez dans cette chasse-là, parce que vous voulez faire le bien, ça se peut que tu te mettes dans le trouble. Parce qu'à un moment donné, il va falloir que tu trouves des photos, il va falloir que tu aies des conversations. Puis des conversations de porno juvénile, là, c'est illégal, même si c'est juste des conversations. Puis si la personne t'envoie des photos, si tu lui envoies des photos, puis ça l'implique des enfants, si tu détiens cette photo-là dans ton cellulaire, t'es automatiquement dans le trouble si jamais un policier te croise, ou s'il fouille ton cellulaire. Fait que de se lancer là-dedans... Je peux comprendre le principe parce que peut-être que tu étais agressé puis tu veux te revenger et tout ça.
Les intentions sont bonnes, mais
il y a peut-être plus de chances que tu te mettes dans le trouble, que tu mettes dans le trouble la personne qui se dit actuellement dans cet article-là victime.
Vraiment.
Un pédo victime. ça me laisse,
ouais,
ça me laisse
c'est ça.
Ni chaud ni froid.
Si tu as échangé sur Internet avec des gens que tu savais qui n'avaient pas l'âge de la majorité, ben c'est ça.
Ben exact. Mais c'est ça. Le service de police doit le rappeler aux jeunes. Si vous embarquez là-dedans, ça se peut que tu te ramasses dans le trouble. Au même titre que si tu es un adulte, tu as 25 ans, tu te dis « moi, j'ai toujours voulu être Batman », puis tu essaies de trouver des pédos, ben avoir des conversations de pornographie juvénile, c'est illégal. Donc, le matériel que tu vas obtenir, si les policiers tombent dessus, ben ça se peut que tu aies des accusations contre toi. La meilleure des choses à faire, c'est que si jamais votre enfant a des conversations avec quelqu'un qui est vraiment louche, vous arrêtez tout, vous allez voir les policiers, puis vous donnez le matériel sans vous impliquer vous-même dans la situation.
Exactement.
Et les policiers vont faire suivre le dossier en espérant que ça se rende jusqu'à l'arrestation de ce pourri-là. T'sais.
C'est ça. Puis c'est sûr qu'émotionnellement, ça va être difficile parce que ça va toucher votre propre enfant, puis vous allez vouloir réagir sur le coup. Mais aller voir les autorités, c'est la façon de procéder pour faire arrêter le tout.
La pire des affaires, c'est de donner rendez-vous au pédophile dans le parc.
C'est ça. Puis là, de te faire justice toi-même.
Exactement. Parce que le pédo va pogner 6 mois. Toi, tu vas pogner 2 ans, moins un jour, ou avec peut-être un dossier criminel.
Exactement. Puis là, ben ta vie va être tout chamboulée pour une couple de claques à la marboulette que tu auras donné.
Un homme de Québec, Jeffrey Roussel, fait face à des accusations liées au terrorisme pour sa participation présumée dans un groupe extrémiste en ligne. Un gars de 26 ans qui est accusé notamment de participation et de facilitation d'une activité terroriste ainsi que de publication de matériel obscène. Selon la GRC, il aurait été actif au sein du groupe 764, récemment inscrit sur la liste canadienne des entités terroristes ainsi que d'un réseau connexe. Les autorités soutiennent qu'il aurait diffusé du contenu violent et perturbant sur la plateforme Telegram afin d'inspirer et recruter d'autres personnes. Les victimes visées seraient principalement des adolescentes, bien qu'elles n'aient pas été identifiées. Le suspect qui a comparu demeure détenu. La couronne qui s'était opposée à sa remise en liberté. Le groupe 764 qui est décrit en fait comme un réseau international prônant la violence extrême, notamment à des fins idéologiques de propagande en ligne. L'ex-conjointe d'un ancien joueur de la LNH poursuit ce dernier pour 600 000 $ pour enrichissement injustifié, soutenant avoir sacrifié sa carrière pour soutenir la sienne. Selon la poursuite déposée en cour supérieure, citée par le Journal de Québec, la relation, qui a duré une vingtaine d'années, aurait permis au hockeyeur d'accumuler un patrimoine estimé à environ 2 millions de $ d'actifs. La demanderesse affirme avoir mis ses propres ambitions professionnelles de côté pour suivre son conjoint en Amérique du Nord et en Europe, assumant les responsabilités familiales et administratives. Elle réclame ainsi 30 % des actifs accumulés durant leur union, estimant que ses contributions ont permis à son ex-conjoint de maximiser ses revenus. À la fin de l'union, la demanderesse qui ne détient aucun actif significatif, à part un véhicule qui vaut à peu près 15 000 et, nous dit-on, quelques centaines de dollars en banque. La poursuite précise là, quand même qu'une pension alimentaire et des modalités accessoires ont été réglées par un jugement en matière familiale. Et non, on ne sait pas c'est qui le joueur de hockey en question, parce que je sais qu'on est tous curieux puis on aimerait tous donc bien ça savoir. On le sait pas.
Non, moi, je veux pas savoir. Mais si vous le savez, par exemple, 418-971-1021, Max qui m'a fait perdre 20 minutes de ma vie un matin en me demandant « Yann, c'est qui? » Puis on a cherché. On parle d'un couple qui aurait duré à Québec pendant 20 ans. On parle d'un joueur de hockey qui a évolué dans la Ligue nationale de hockey, mais qui a aussi évolué en Europe. Et il y aurait seulement 2 millions de $ d'accumulés. Fait que c'est pas une méga star.
Non.
Puis probablement que c'est pas un joueur de hockey des 5-10 dernières années que ce salaire-là, 2 millions d'accumulés avec en jouant autant d'années dans la NHL.
En effet.
C'est pas un gros salaire.
Non, non, non. C'est plus un joueur certainement de 3e, 4e trio.
Fait qu'on veut pas le savoir, mais si vous le savez, 418-971-1021, pourquoi on n'a pas le droit de dire c'est qui?
C'est une bonne question. Là, si on le nomme pas dans le Journal de Québec, j'imagine qu'il y a peut-être...
dans une ordonnance de non-publication.
Puis, allons au-delà de la nouvelle. Protégez-vous. Là. Quand vous avez des enfants avec quelqu'un, homme comme femme, protégez-vous. Si, exemple, l'homme décide... Je vais twister ça à l'envers pour pas me faire prendre. Là, mais l'homme décide de rester à la maison, puis la dame est propriétaire d'une entreprise... Ben, le gars doit aller chez le notaire puis faire des papiers avec sa conjointe en disant « Regarde, ce qu'on accumule, là, on n'est pas marié. Fait que ce qu'on accumule, on va l'accumuler
ensemble. » Avec la nouvelle règle.
Avec les nouvelles règles, ça va t'aider un peu plus.
Ouais.
Mais je parle des couples qui sont ensemble depuis 10, 15, 20 ans.
Non, c'est ça, eux autres.
Il y a des gens qui n'ont rien à leur nom. Puis là, c'est tout au nom du conjoint, de la conjointe. Puis cette personne-là... a réalisé quelque chose de majestueux. Elle a bâti son entreprise pendant que l'autre s'est occupé de la maison, s'est occupé de la famille, les devoirs, les leçons, patati patata. Tu sais, c'est de l'enrichissement d'un bord, mais de l'autre bord, si ça se termine, c'est quelqu'un qui devient pauvre puis qui n'a rien d'accumulé. Là.
Exact.
C'est triste, là.
Le nombre de réclamations au ministère des Transports du Québec pour des dommages liés à des nids de poules atteint de nouveaux sommets au Québec. Le journal qui rapporte que 2,2 millions ont été réclamés au ministère depuis le début de l'année 2025. Par contre, seulement 5 % des demandeurs ont été indemnisés par l'État québécois. Le porte-parole chez CAA Québec, Nicolas Ryan, explique que le fardeau de la preuve, ben, ça appartient à l'automobiliste qui doit non seulement prouver que les autorités étaient déjà au courant de la présence du nid de poules, mais aussi qu'elles ont été négligentes pour régler le problème. Fait que je donne un exemple. Il faut avoir des preuves. Fait que, mettons, une photo du nid de poule. Mais il faut aussi que tu te lances dans des démarches administratives, comme si tu étais un grand journaliste, puis que là, tu fais une demande d'accès à l'information parce qu'il faut que tu obtiennes les preuves que les autorités étaient au courant, ont été négligentes. Et pour ça, ben, il faut que tu ailles chercher dans les papiers de la ville, puis pour ça, il faut que tu passes par une demande d'accès à l'information. Parallèlement à ça, dans Radio-Canada ce matin, on nous dit qu'à Québec, il y a des données là, qui nous montrent que la ville a reçu en 2025 un nombre record de 469 réclamations d'automobilistes dont la voiture a été endommagée après avoir roulé dans un nid de poule. Et depuis le 1er janvier dernier, on parle déjà de 280 réclamations pour Québec.
Ouais, Maître Bellemare mentionne qu'à partir du moment où vous avez le problème, là, prendre des photos le plus possible. Aller voir le fameux nid de poule. En même temps, si c'est sur l'autoroute ou un endroit
difficile.
C'est un petit peu plus difficile, bien entendu, mais bien documenté. Puis oui, tu les amènes aux petites créances. Puis oui, ça demande des... ça demande de faire des efforts. Puis ça va peut-être te coûter plus cher que ce que tu vas demander finalement. Fait que t'es aussi bien de réclamer à tes assurances là, quand ça t'arrive. Mais Québec n'embarquera jamais là-dedans. Là. Il n'y a aucune municipalité puis aucune province qui... En tout cas, Québec n'embarquera jamais. T'imagines-tu comment ça pourrait coûter? Le mauvais entretien de nos routes qui fait en sorte que nos automobilistes scrapent leur voiture. T'imagines-tu comment ça pourrait leur coûter?
Ça serait immense.
Puis la responsabilité revient à qui quand c'est mal entretenu? C'est-tu le déneigeur qui a arrêté l'asphalte? C'est-tu l'entrepreneur qui a fait ce tronçon-là, qui n'a pas mis le bon matériel?
Ouais,
d'ailleurs,
c'est une bonne question, t'sais, parce que là, l'État faudrait qu'après ça, cherche qui est le coupable pour ensuite faire en sorte qu'on retourne voir, qu'on retourne poursuivre le coupable,
c'est
qui peut poursuivre son sous-traitant, puis là, ça finit plus.
Parce qu'il n'y a rien de plus fâchant que de se faire, te se faire scraper ta voiture quand c'est pas de ta faute. Là. Tu sais, le maudit nid de poule, il est pas supposé d'être là, puis finalement, il est là, tu scrapes ton char. Mais en même temps, les villes embarqueront jamais là-dedans. Là. Ils vont se ruiner.
Ben oui.
Max?
Les voies réservées au transport collectif à Lévis sont pas si réservées que ça. Le Soleil rapporte du moins que les autorités n'appliquent pas vraiment la réglementation. On peut lire que depuis 2021, les policiers ne remettent annuellement que quelques dizaines de constats d'infraction pour non-respect des voies réservées. Dans certains secteurs, très, très peu de constats sont remis. Sur la route des Rivières à Saint-Rédempteur, par exemple, on parle d'une moyenne de 6 constats par année. Pire encore, sur Marie-Victorin, pas loin du pont de Québec, le Soleil dit avoir constaté des dizaines d'infractions en à peine quelques minutes. Mais quand tu regardes les chiffres, les autorités n'ont coincé que 2 automobilistes depuis 2020. Fait que le Soleil est allé s'installer là, puis en quelques minutes, on a vu des des dizaines d'infractions. Et depuis 2020, les autorités ont donné 2 contraventions, quelque chose qui ne fonctionne pas. Le SPVL assure pourtant qu'il fait une surveillance constante du respect des voies et régulièrement mène des opérations à ce niveau-là, mais on précise que la décision de donner des contraventions ou non s'est laissée en général à la discrétion du policier. Selon Alain Audette, qui est président du syndicat des chauffeurs d'autobus de Lévis, le non-respect des voies réservées, là, ça a un impact réel sur le temps de trajet des autobus, puis il déplore un petit peu là, que ce soit autant pas puni par les autorités. Gilles Bélanger quitte la CAQ en claquant la porte après avoir été écarté du Conseil des ministres. Il avait été le tout premier à appuyer Christine Fréchette pour qu'elle succède à François Legault comme chef de la CAQ avant même qu'elle se lance officiellement. Il avait aussi fait réagir en cours de course en lançant qu'il quitterait si Bernard Drainville sortait gagnant avant de se raviser. Plus récemment, Gilles Bélanger, qui était alors ministre de la cybersécurité et du numérique, déplorait que son ministère n'avait pas le pouvoir de contraindre Santé Québec à repousser le lancement du dossier santé numérique malgré des craintes importantes. Dans sa lettre de départ, l'ex-ministre a écrit d'ailleurs que l'impossibilité de faire valoir l'importance du numérique dans l'ensemble de l'œuvre gouvernementale a été une grande déception pour lui. Il explique avoir cru que les choses pouvaient changer rapidement, mais ne pas sentir cette ambition qui est étonnamment perçu comme un risque, dit-il.
Jeff, comment ça a été avec Bernard Drinville hier?
Ça a super bien été. Il était très jovial. Il était très enjoué par son poste de super ministre de l'économie. Cependant, ben, quand on a parlé des promesses qu'il avait faites, ben, premièrement, quand je lui ai dit comment vous allez faire pour convaincre les Québécois de voter pour Christine Fréchette quand vous l'avez traité de beige, là, il m'a dit, ben, je n'ai pas vraiment utilisé ces mots-là.
Oui.
Fait que là, j'ai dit, ben, voulez-vous que je sorte les extraits? Je les ai. Fait qu'il a dit, bon, ben, tu n'as pas besoin de sortir les extraits. Fait que ça voulait dire que, de un, j'avais raison, il avait traité de beige. Puis de deux, ben, toi, on a fait le tour de plein de promesses. Ouais. Exemple, bon, le troisième lien, vous êtes de retour pour un troisième lien à l'Est. Alors, il m'a confirmé que oui, Christine l'avait convaincu que c'était bon d'aller voir des consortiums privés de le faire.
Ah ouais.
Après ça, j'ai dit, ben j'imagine que là, vous êtes pour la coupe des arbres massives dans le projet du tramway. Il a essayé de remettre ça à la faute de Bruno Marchand qui contrôle ce projet-là. J'ai dit, ben non, mais
non,
si vous aviez été...
c'est provincial.
Premier, c'est ça. J'ai dit, si vous aviez été premier ministre, vous l'auriez arrêté, le projet. Fait que là, vous... La CAQ le continue, le projet. Fait que là, ben, il m'a avoué que la CAQ continue le projet. Puis que ça plafonnerait pas à 18 000 nouveaux immigrants, mais à 45 000. Puis que...
Ah, ça doit être tough.
Donc, c'est ça. Alors, évidemment, alors, j'ai dit, bon, ben, j'ai dit, dans le fond, 42 % a servi seulement pour vous et quelques membres de votre équipe. C'est-à-dire, vous êtes super ministre de l'économie. Samuel Poulain est ministre des Affaires municipales. Puis qu'Ariane Bourassa est rentrée dans le Conseil des ministres parce que j'ai dit, il n'y a pas grand de vos idées qui sont retenues.
Non, exact. L'entrevue est disponible au blvd.fm ou encore sur l'application Boulevard.
Un rapport de la Santé publique de Montréal dresse des constats préoccupants concernant la santé de nos jeunes. D'abord, tel que cité par la presse, les jeunes vapotent autant aujourd'hui qu'ils fumaient la clope il y a 15 ans. Puis une autre tendance est soulevée par la santé publique. Pour la toute première fois, les filles consomment plus d'alcool et de drogue que les garçons. Point plus positif, peut-être que le niveau de consommation d'alcool, de drogue et de tabac chez les ados, ben, globalement, ça a diminué dans les dernières années. Là, vous comprendrez que là-dedans, j'ai bien dit, là, alcool, drogue, tabac, le vapotage, on ne l'inclut pas. Ça, c'est en montée. Les données qui ont été collectées à partir de questionnaires remplis par 5800 élèves dans une centaine d'écoles secondaires publiques et privées de Montréal.
Les filles consomment maintenant plus de drogue et plus d'alcool que les gars.
Chez les ados, oui, selon cette étude-là.
Puis est-ce qu'on dit si c'est des filles biologiques ou pas? On va faire les sports, hein?
Oui.
Les
sports!
6h39, pas de match du Canadien hier. Il n'y en a pas ce soir. Non. As-tu hâte que ça reparte, Colin?
Ben oui, mais non en même temps, dans le sens où même les soirs... Hier, je regardais Penguin Flyers, là. Tabarouette! Oui, ça a brassé Canadien Lightning.
Il y a eu quoi? 5, 6, 7 joueurs des Pingouins sur le banc des pénalités?
Ils ont sorti les 5 gars de chaque équipe qui se battaient tous en même temps. Fait qu'il y avait 5 gars d'un bord, 5 gars de l'autre. Puis là, pendant ce temps-là, les Flyers, à un moment donné, ont scoré. Fait que t'avais les 5 gars sur le banc de pénalité qui célébraient ensemble. C'était de toute beauté. Mais c'est ça, ça va pas pantoute pour les Pingouins qui vont faire face à l'élimination samedi après une défaite de 5-2 hier face aux Flyers. Les Pingouins qui ont marqué 4 buts au total en 3 matchs dans cette série-là face au gardien Dan Vladar, donc vont risquer le balayage. Au Minnesota, 2 périodes de prolongation ont été nécessaires et les Stars se sont sauvés avec la victoire pour prendre les devants 2-1 dans la série. Et Connor McDavid a été blanchi pour une deuxième fois face aux Ducks dans une défaite de 6-4 à Anaheim, qui crée donc l'égalité 1-1 dans la série face aux Oilers. 3 points chacun pour Alex Killorn, le Québécois, Cutter Gauthier, qui n'est pas Québécois, et Jackson Lacombe, qui pourrait aussi avoir l'air d'un Québécois, mais qui ne l'est pas. Ce soir, il y a 3 matchs. Sabre-Bruins, c'est 1-1 la série. Les Sens, qui sont de retour à la maison, perdent la série 2-0 jusqu'à maintenant face aux Hurricanes. On va essayer de se replacer. Et les Kings aussi, là, qui arrivent à la maison et tirent de l'arrière 2-0 face à l'Avalanche. Pour ce qui est du Canadien, là, comme on le disait, c'est demain que ça reprend. Dans la NBA, match numéro 3, Cavaliers-Raptors ce soir. La série qui est menée 2-0 par Cleveland et se transporte à Toronto. Et la séquence de victoire des Blue Jays s'est arrêtée à 3 avec une défaite de 7-3 hier face aux Angels de Los Angeles. Pour un prochain match, c'est demain face à Cleveland.
Pour nous informer de ce qui se passe dans la